Et donc, chapitre 34. Deux chroniques, chapitre 34. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un message peut-être très structuré, mais il me semble que dans la vie de Josias, il y a un certain nombre de tableaux de vie. Et Josias, jeune, très jeune, à 8 ans, devient roi, bien sûr, sous régence. Et puis, rapidement, dans son adolescence, il commence à prendre la direction spirituelle des affaires de son royaume. Devient un roi absolument brillant. Mais plus que ça, un homme profondément spirituel qui a, par son exemple, par la législation, par ses réformes, amené son peuple pendant au moins un bref moment vers Dieu, vers l'Éternel. Et puis a connu ce qu'on pourrait dire une mort tragique. Quand on dit de certains, il nous a quittés beaucoup trop tôt. On se prend à rêver ce que ça aurait pu être si lui, il avait pu vivre aussi longtemps que son grand-père Manassé. Mais il est mort relativement jeune, dans des circonstances, disons, tragiques. Mais tout ça fait partie du plan de Dieu, du tableau de la vie de Josias. La première chose, en lisant deux chroniques, on se rend compte que c'est ce dont l'histoire parmi ses ancêtres. Je pense que c'est après son arrière-grand-père, c'était Ézéchias. Vous vous souvenez, Ézéchias était un homme qui aimait le Seigneur, mais qui peu à peu a ramolli dans sa marche avec Dieu. Et puis quand Ésaïe, qui était un proche, dit de la part de l'Éternel, mets tes affaires en ordre, bientôt tu vas mourir, qui était d'ailleurs très gentil de la part du Seigneur, de l'avertir à l'avance. Je crois que, je ne sais pas si vous aimeriez, moi j'aimerais bien, si savoir peut-être quelques mois à l'avance, tu vas bientôt mourir, prépare qu'il n'y ait pas de confusion parmi tes descendants, etc. Prends le temps qu'il faut, mais prépare-toi à quitter cette vie. Le Seigneur lui a rendu ce service. Et lui, donc, se met à pleurer comme un gamin gâté, dans son lit, la face contre le mur. « Seigneur, tu vois comment je t'ai servi, qu'est-ce que c'est? Je vais mourir, pourquoi? Et je ne veux pas, et voilà. » Et alors, le Seigneur dit aussitôt à Isaïe, il dit qu'il lui donne 15 ans de plus. Je donne 15 ans de plus, et même, je vais faire un signe pour lui montrer qu'il donne 15 ans de plus. Alors qu'il n'avait rien demandé, aucun signe. Il dit, mais le Seigneur fait des tas de choses pour cet homme. Il a demandé comme ça d'un claquement de doigts, Dieu lui donne tout ce qu'il voulait, et en plus des signes. Et alors, on se dit, mais alors Ézéchias, ça va être 15 années merveilleuses. Il va approfondir sa vie avec Dieu, ça va, la bonté de Dieu va le pousser à revenir là où il était quand il était jeune. Eh bien non. Il tombe dans un panneau le plus élémentaire, les Babyloniens viennent pour le féliciter de son rétablissement. Il leur montre toutes ses richesses. Et quand Ésaïe revient, qu'est-ce qu'ils ont vu ces gens-là de Babylone? Ils ont tout vu. Et puis quand il dit, ainsi parle l'Éternel, ils ont tout vu, ils vont revenir tout prendre. Dieu va juger le royaume, ils vont tout prendre. Tout ce que tu leur as montré, même ils savent ce que vous avez, ils vont tout prendre à venir chez eux. Et la réponse d'Ézéchias est glaçante. La parole de l'Éternel est bonne, n'y aura-t-il pas la paix pendant ma vie? Dit en langage aujourd'hui, après moi le déluge. Ça m'est égal ce qui arrive pour que, vu que moi je sois bien. On dit, mais est-ce que c'est le même Ézéchias qui marchait avec Dieu quand il était jeune? C'est dans ces 15 dernières années qu'il a donné naissance à Manassé. Malheureux, malheureux roi qui a régné, lui, 55 ans. Et qui a régné 50 et quelques années dans l'impiété la plus totale, qui a amené son peuple à un point de non-retour. Et quand Dieu a dit qu'il allait juger le royaume de Juda, que le jugement était inéluctable, il disait chaque fois, c'est à cause des péchés de Manassé que le jugement va tomber, la coupe est pleine, et c'était Manassé qui a provoqué le jugement ultime sur Juda. Mais à la fin de sa vie, contre toute attente, ce Manassé vient à l'Éternel. Il ne revient pas, il vient pour la première fois. Et il se met en règle, il pleure, il se repent, et Dieu lui pardonne. Merveilleux. Son fils, il a plutôt vu le père ancienne version que la nouvelle version repentant, Amon, qui a régné 2 ans, en horrible roi. Et après, vous avez Josias. Et alors, avec tous ces tableaux d'ombre et de lumière, un moment où on marche avec Dieu, suivi d'un long moment d'infidélité, et tout cela, on se dit, qu'est-ce que ça va donner celui-là? Maintenant, il a 8 ans. Qu'est-ce qu'il va comprendre de la vie? Là, on commence à trembler pour le royaume d'Israël, du Juda. Et finalement, plus on lit, on dit, mais c'est génial, ce garçon. Mais comment est-ce qu'il est arrivé comme ça? Avec le père qu'il avait, Amon, avec le grand-père Manassé, qui... Et puis alors son arrière-grand-père qui... Comment est-ce que c'est arrivé? Dieu a fait grâce à son peuple. Il a suscité le roi Josias. Il a 8 ans. Il va régner 31 ans. Il va mourir à l'âge de 39 ans. À l'âge de 16 ans, adolescent, la Bible dit, verset 3, la huitième année de son règne, chapitre 34, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Il a 16 ans. Il commence, parce que une fois qu'il a trouvé le Dieu de son père, il a agi. Mais de l'âge de 16 ans à l'âge de 20 ans, quand à 20 ans il est passé à l'action, mais à l'âge de 16 ans, il a commencé à rechercher la présence et la personne de l'Éternel. C'est d'autant plus étonnant que c'est bien plus tard qu'on retrouve le livre de la loi. Apparemment, il n'avait pas le bénéfice de la Bible. Et on se dit, mais par quel intermédiaire, par quel truchement, ce garçon de 16 ans, comment Dieu a-t-il poussé ce garçon à rechercher sa face? Dans mon histoire, mon père, que Billy Allen connaissait bien, mon père s'est converti à une réunion d'évangélisation à l'âge de 11 ans. Mais n'étant pas nourri, n'étant pas dans une église évangélique, il a vite décroché, puis il a vécu sa vie de jeune homme dans le monde. On ne pourrait pas jamais plus distinguer que c'était un racheté du Seigneur. Il avait des notes au lycée horribles. Il a quitté le lycée à 16 ans, je n'ai plus jamais fréquenté une école. Il se trouvait dans le sous-sol d'un fournisseur de choses électriques à trier des petites composantes électriques dans un sous-sol, dans un magasin. Et on aurait pu penser qu'il passerait sa vie. Mais à l'âge de 17 ans, alors qu'il était loin de Dieu, il n'avait pas prié depuis des années, Dieu lui a mis, sans qu'il ne lise la Bible, Dieu lui a mis une faim et une soif de Dieu. C'était tout à fait miraculeux. Sa mère priait pour lui. Mais rien n'aurait pu faire croire que ce garçon allait s'intéresser à Dieu. Et Dieu, par un miracle de sa grâce, a tourné son affection vers le Seigneur. Il a pris une Bible et il l'a dévorée pendant un an, en pleurant. Et puis, il a ressenti rapidement, Dieu m'appelle au service. Il est allé se former pendant un an et puis pendant deux ans. Et en gagnant des âmes au Seigneur à tous les coins de rue, c'était Dieu a pris mon père, il l'a totalement transformé. Et avant que quelqu'un dise, lis la Bible, tiens, tu vas faire les études bibliques, Dieu est intervenu. Dieu peut le faire, et Dieu le fait. À l'âge de 16 ans, Dieu intervient dans la vie de ce jeune Josias, et pendant 4 ans, il met son cœur à chercher l'Éternel. Imaginez un jeune roi de 16 ans, il y avait des trucs qu'on pouvait faire, pas mal. Il avait des richesses, il avait la célébrité, il avait tout pour lui. Il aurait pu avoir n'importe quel plaisir du monde. Non, son cœur est tourné vers Dieu. Ça, c'est déjà extraordinaire. À 20 ans, on peut dire qu'il a mis du temps, mais il n'y a pas de problème. Dieu a le temps. Après 4 ans à rechercher Dieu, tout à coup, il se lève, verset 3, et il commence à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images, taille des images en métal fondu. Il y a eu 5 réveils pendant ces dynasties de David dans le royaume de Juda. 5 réveils, plus ou moins intenses. Mais on ne peut pas, aucun réveil ne se compare à celui mené par Josias en ce qui concerne la destruction d'idoles. Lui est allé, mais alors dans tous les recoins, on est allé presque à la loupe dans tous les coins du pays, là où il y avait une idole, ou un fragment d'idole, ou une idée d'une idole, ou un arbre qui abritait une idole, ou enfin, n'importe quelle chose qui avait quoi que ce soit à faire l'idolâtrie, la destruction. Il n'a pas à recycler l'or et l'argent ou le fer ou quoi. Comment ferez-nous pour gagner un peu d'argent, quand même? Non, la destruction totale de toute idole. Dans tout le royaume. Aucun coin n'a été négligé. Il a fait ça de manière plus complète qu'aucun autre roi n'avait fait. Une destruction acharnée des idoles. Ça, c'est la première chose qu'il a faite dans son royaume. Il ne s'est pas occupé d'administration, d'impôts, de tout ce qu'il aurait pu. Il s'est occupé de détruire les idoles dans son royaume. Je trouve ça intéressant. À force de chercher Dieu, Dieu lui a montré toutes les idoles, il fallait les détruire. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'une idole? Olivier Cromwell, c'était le premier ministre puritain d'Angleterre, a dit ceci, une idole, c'est tout ce qui refroidit tes désirs pour Christ. Ça va loin. Et on sait tous, on l'a tous expérimenté à plus d'une fois, quelque chose qui arrive dans notre vie, et on est là entre je passe du temps avec Dieu ou je passe du temps avec ça. Dès qu'il y a un peu un Y sur le chemin, dès qu'il y a une hésitation, on peut dire ça c'est une idole. Mon amour pour Christ s'est refroidi parce qu'il s'est porté sur cette autre chose. Un hobby, un objet, une personne, n'importe quelle chose, ça devient une idole parce que j'aime Christ un peu moins, parce que j'aime cette chose un peu trop. Et donc, destruction totale d'idole. Alors, non seulement il les détruisait, mais il les réduisait en poussière pour que ne puisse pas les reconstituer. C'était pas vous le démonter gentiment et quand je reviendrai aux idoles, on pourra vite le retrouver et le remonter. Non, 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 non. Il ne restera rien de ces idoles. On n'en veut plus. Et donc, il fait ça pendant 6 ans. 6 ans d'instruction d'idole. Il a de la continuité, il a de la suite dans les idées. C'est pas un truc de 6 mois où il dit bon, je crois qu'on en a détruit les principales, les autres, les petites idoles, ça ne gêne pas trop. Non, 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 non. Et après, qu'est-ce qu'il fait? 18e année de son règne, verset 8, il dit maintenant, il faut réparer, reconstruire, rénover la maison de l'Éternel. C'est intéressant que quand Ézéchiel est dans Babylone auprès des exilés, que Dieu lui donne une vision de la maison de l'Éternel que Josué a réparée, Josias a réparée, quelques dizaines d'années plus tard, Dieu donne une vision glaçante. Que dans le temple, il y avait le Saint des Saints, puis par une porte dérobée, l'Esprit de l'Éternel amène Ézéchias et il rentre derrière, un peu dans l'arrière-boutique, dans les locaux un peu secrets, où il n'y avait pas de fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des idoles dans une grande pièce et des sacrificateurs de tous ces cultes idolâtres qui sont chacun en train d'adorer son idole, de faire des sacrifices à leurs idoles dans le temple de l'Éternel. Je me demande parfois, là, moi, mon cœur, je sais que dans mon cœur, il y a plein de pièces, il y a de petites pièces. Si on fait pas le ménage régulièrement, je peux ouvrir, oh, puis il y a une idole là, il y a une idole là, et puis je fais des cultes les unes avant les autres, et puis le Seigneur, il ne reste que des miettes. Donc, avoir la maison de l'Éternel construite, mais avec des idoles à l'intérieur, ça ne sert à rien. Josias a dit d'abord, on détruit les idoles, après on restaure la maison de l'Éternel. Comme ça, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas d'idole. On va la rénover, cette maison, elle est consacrée à Dieu. Et c'était magnifique. On voit dans cette reconstruction, ça fait plaisir à voir la rigueur qui régnait, la bonne volonté. C'était, je crois que si vous n'avez jamais été sur un chantier, vous auriez voulu être là, une petite souris, à voir ces gens travailler. Car dans ce temple, en plein de rénovation, vous avez des gens qui arrivaient régulièrement et qui donnaient de l'argent dans une grande caisse à l'entrée du temple pour les rénovations du temple. Ce n'était pas une obligation, les gens venaient volontairement. La caisse se remplissait, Des bons hommes arrivaient, le vider dans le trésor, compter, tenir les comptes, il est rentré tant d'argent, des sommes assez, assez conséquentes. Et puis, les sacrificateurs embauchaient les artisans de grand renom, des gens qui savaient bien travailler. Tu vas nous faire ça, tu vas nous faire ceci, voilà les plans, tu vas le faire comme l'Éternel le veut, etc. On va te payer rubis sur ongles, etc. Et puis, la comptabilité était parfaite, les dons étaient là, les hommes travaillaient avec plaisir, avec expertise, ça tournait comme une montre, c'était d'une très grande précision, d'une très grande rigueur, et ça faisait plaisir à voir. Tous ces hommes qui étaient des professionnels qui étaient là pour la gloire de Dieu. Les paiements étaient en temps, il n'y avait manqué rien, le peuple de Dieu contribuait généreusement à la construction de ce temple. Ça en dit long sur l'exemple de Josias et l'effet de sa piété sur le peuple. Le peuple s'est approché de Dieu, leurs portefeuilles se sont ouvertes et avec joie, ils ont soutenu cette œuvre de rénovation. Et je pense que la qualité de la rénovation était à la hauteur de la piété de ces gens-là. Il est vrai qu'on peut faire dire, ah oui, ils ont une très belle église, mais ce n'est pas une église qui fait qu'on est spirituel, ils ont raison. Si la beauté des églises faisait qu'on est spirituel, l'église catholique romaine en France serait la plus spirituelle de toutes les églises. Et en elle, ce serait l'hindouisme qui serait la plus spirituelle de toutes les religions, etc. Donc, ce n'est pas, comme on dit, l'habit qui fait le moine, ce n'est pas le bâtiment qui fait la spiritualité de l'assemblée. Mais une assemblée qui aime sincèrement et réellement Jésus, sans avoir les locaux luxueux, voudront avoir les locaux corrects pour honorer celui qu'on y adore. Et c'était le cas ici avec ce temple. Et enfin, à force de faire le ménage, de nettoyer dans ce temple, de jeter des choses qui n'avaient rien à faire là-dedans, on tombe sur quoi? Le livre de la loi. Et on se dit, mais c'est tout à l'envers. Ils auraient dû trouver le livre de la loi d'abord, ça aurait conduit Josias à rechercher l'Éternel, ça aurait conduit Josias à... Mais c'est intéressant comment Dieu a conduit Josias, peut-être par des choses qu'il a entendues de gens qui avaient lu la Bible, qui pouvaient lui en parler, mais sa recherche de l'Éternel l'a amené naturellement à la destruction de toutes ses idoles et à la rénovation du temple de l'Éternel. Parfois, on est là à conseiller les gens, oui, j'ai une question, vous allez m'aider, surtout les pasteurs, on vient vers nous. On nous prend pour la fontaine de la connaissance. Combien de fois j'ai entendu, alors voilà, j'ai une question à te poser, monsieur le pasteur. Alors, je l'ai déjà posé à trois autres pasteurs, et ils m'ont tous répondu différemment, et j'aimerais savoir ce que vous pensez. Alors là, vous marchez sur des œufs, hein, parce que vous ne savez d'abord pas à qui ils ont demandé, vous avez peut-être des amis, vous ne voulez pas les contredire non plus, vous ne voulez pas semer la conviction dans le cœur de cette personne-là. Et parfois, surtout au début de son ministère, on commence à pérorer la réponse que l'on trouve logique et bonne à donner. Et alors, c'est touchant les gens. Ah, monsieur le pasteur, merci. Merci pour votre réponse. Vraiment, ça m'a éclairé. Et là, vous vous sentez vraiment bien. J'ai pu aider quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il vienne quelques temps plus tard. Hé, hey, monsieur le pasteur, ça n'a pas marché votre truc, hein? Pas du tout, hein? Moi, j'ai appris il y a quelques temps à dire qu'est-ce que Dieu vous dit. Parce que si on a envie de marcher avec Dieu, Dieu va. Nous ne sommes pas des fontaines ni de sagesse ni de connaissance. On n'est que des hommes. Et le Saint-Esprit est dans le cœur. Quand c'est en croyant, la meilleure chose, c'est sonde ton cœur et laisse Dieu te parler. Si tu veux vraiment connaître la volonté de Dieu, il te la révélera. On peut conseiller, on peut aider, on peut t'accompagner. Mais ne regardez pas ni vers les pasteurs, ni vers aucun autre homme ou femme chrétienne pour vous dicter la manière qu'il faut marcher. Il faut que ça vienne de lui. Et ça permet aux gens d'être autonomes, d'avoir leur propre relation avec le Seigneur. Et est-ce que c'est pour ça que peut-être Dieu n'a pas permis qu'il trouve le livre de la loi jusqu'à ce que Josias ait déjà sondé l'Éternel et qu'il connaissait l'Éternel dans son cœur et après Dieu lui révèle sa parole? Et là, on lit la parole. Je pense qu'ils ont dû trouver des livres de prophètes, des livres de la loi, surtout Deutéronome, où vous avez le résumé de Lévitique, Exode et Nombre. Exode, Lévitique et Nombre. Et là, vous lisez chapitre 28 de Deutéronome. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, vous aurez des bénédictions dans vos récoltes, dans la porte de vos menus et gros bétails, vous aurez des bénédictions dans vos oliveraies, dans vos champs, dans vos vignes, vous serez bénis, vous serez le premier des peuples et pas le dernier. Voilà. Mais si vous n'obéissez pas à la loi de l'Éternel, puis vous regardez le chapitre, qu'est-ce qu'il reste à lire? Vous avez lu 12 versets. Et vous regardez, ça finit vers verset 53. Et là, c'est 50 versets de malheur. Mais du gros malheur. De terrible jugement. Et si malgré ce malheur-là, vous n'obéissez pas à l'Éternel, voici un autre malheur que Dieu. Et si malgré, ben voilà une quatrième malheur, une cinquième, une sixième, et les malheurs, ça défile. Et jamais Dieu ne dit, bon, si vous ne voulez pas, et qu'est-ce que vous voulez, j'ai essayé, tant pis, on va rester comme ça. Non, il dit, bam, un autre malheur. J'aime bien ton chant. Apocalypse, boum. Eh bien, Chaffan, le secrétaire, vient lire le livre de l'Éternel. Et il lui lit, Dieu dit, vous avez beaucoup péché. Et Dieu maintenant est très en colère et il va vous juger. Et verset 19, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Verset 21, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Il dit, Dieu est vraiment en colère contre notre peuple. Nos pères ont fait n'importe quoi. Nos pères ont été infidèles. Et Dieu est très en colère. Il ne dit pas, bon, moi, j'ai plutôt été bon roi jusqu'à présent. J'ai donné mon cœur à chercher l'Éternel. Je pense que tout ça ne s'applique pas à nous. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, Dieu est en colère et il a raison. Il a raison d'être en colère. Il a raison de prononcer un jugement sur notre peuple. Regardez comment on l'a traité. Quand on s'aligne avec Dieu, quand nous avons péché, et on entend Dieu est en colère contre ton péché, on est là, autant, c'était pas si grave que ça. C'est un peu grave, mais j'en connais d'autres qui ont fait pire que moi. Alors pourquoi il serait spécialement en colère contre moi? Et on essaie de minimiser notre péché, d'amplifier celui des autres, de dire, moi j'ai vu certains qui ont péché plus que moi, rien ne leur est arrivé, donc je peux toujours espérer que peut-être Dieu n'a pas tout vu, ou bien qu'il est gentil, ou bien que, voilà. Il a la seule bonne réponse. Dieu dit, je suis en colère contre votre péché. Josias dit, Seigneur, tu as raison d'être en colère contre notre péché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Non pas, sauve-nous, Seigneur. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'attend pas à ce que le jugement soit levé. D'ailleurs, le jugement ne sera pas levé. Mais il sera retardé. Le jugement sera retardé. Et donc, ils sont allés voir une prophétesse, Hulda, verset 22. Et ils sont allés dans la part du roi. On connaissait cette Hulda, c'était une voyante, pas une voyante d'occultisme, une femme à laquelle Dieu parlait, pas, apparemment régulièrement, quand on devait consulter l'Éternel. Le Seigneur a toujours eu quelqu'un. Généralement, c'était un homme, mais pas toujours. Il y avait Déborah. Donc, Dieu a trouvé cette femme qui était à son écoute et lui a révélé différentes choses. Et donc, les gens, quand ils voulaient savoir ce que Dieu pensait, ce que Dieu disait, des fois, s'il aurait parlé à Hulda, et tout le monde la connaissait. Donc, on est allé la voir. Écoute, on vient du roi Josias, tu vois ce qu'il a fait, on vient de lire dans la parole. Voilà, est-ce que Dieu donne un message? Et Dieu lui donne un message pour Josias. Et verset 4, 24, il dit, Dieu dit, « Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Parce qu'ils ont abandonné, ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais, vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Il parle à Juda. Et à quoi, non, plutôt il parle à Josias. Il parle à Josias, Josias, tu as entendu en lisant la Bible. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. D'où vient la belle réaction de Josias? Comment se fait-il qu'il ne soit pas tombé dans le travers dans lequel nous tombons? Seigneur, mes pères, ils ont fait n'importe quoi, mais moi, regarde, depuis l'âge de 8 ans, je te sers, depuis l'âge de 16 ans, je te cherche, depuis l'âge de 20 ans, je casse les idoles, depuis l'âge de 26 ans, je construis ton temple. Seigneur, je crois que pour moi, tu n'as rien contre moi. Donc, pourquoi tous ces malheurs? Est-ce que tu... Non. Il connaissait Dieu. Et il savait que Dieu avait raison. Vous êtes en train de faire une belle construction, une belle rénovation pour honorer Dieu et vous apprenez par la parole de Dieu qui va détruire ce lieu que vous êtes en train de rénover. C'est décourageant. Mais le cœur de Josias n'est pas dans le projet de rénovation. Il n'est pas plus attaché au temple que ça. Il est attaché à Dieu. Et donc, il est troublé par le péché de son peuple. Et donc, Dieu dit, tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu de l'Éternel. Je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Il aurait pu dire, bon, mais ça va. Il aurait pu dire comme son arrière-grand-père après moi le déluge. Moi, je vais mourir en paix. Je mourrai, on mettra dans mon sépulcre. C'était important pour un oriental. La pire chose qui puisse arriver, c'est mourir dans un champ et être mangé par les chiens. C'est arrivé à Acab. Mourir, mais être mis dans son sépulcre royal avec les honneurs, c'était une belle manière de partir. Et Dieu lui dit, les malheurs ne viendront pas pendant ta vie. Il aurait pu dire, bon, voilà, j'en ai assez fait, c'est bon, je suis content. On peut continuer comme ça. Non, il continue à amener son peuple vers l'Éternel. Il sait que le peuple sera jugé par l'Éternel. Il le sait, mais il dit, c'est pas une raison. On va, nous, aujourd'hui, aller vers notre Dieu. Et là, ils ont ouvert le livre de la loi et l'ont lu à toute la population. Et ensuite, ayant lu ce que Dieu demande, ils ont dit, et pourquoi on ne ferait pas une alliance avec Dieu? Pourquoi on ne s'engagerait pas à lui obéir? En engagement solennel. Alors, je sais ce qu'on pense. Ouais, parfois des pasteurs, surtout des Américains, mais parfois aussi des Français, ils lancent des appels. Avancez-vous, priez, mettez votre vie en règle avec Dieu, reconsacrez votre vie à Dieu. Oh, vous savez, ça ne sert à rien. Hein? Ce n'est pas parce qu'on s'avance, parce qu'on se met à genoux que ça va changer quelque chose. Ils ont raison. Ce n'est pas un acte magique. Mais il y a des moments quand Dieu nous demande de nous engager. J'ai vu trop de situations, peut-être que vous en avez vécu aussi, où le pasteur va prendre du temps à faire une étude biblique avec quelqu'un. Ça va durer toutes les semaines pendant 6 mois, 9 mois. Puis on sent que l'enthousiasme diminue. Et puis la personne téléphone, écoutez, demain, excusez-moi, je ne pourrai pas vous recevoir parce que machin. Et puis ça se renouvelle, et puis une fois par mois, et puis etc. Et on est frustré parce que nos intentions sont bonnes. Mais quelque part, on a pensé dans la pensée. S'ils ont assez de connaissances, ils deviendront spirituels. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans les églises, qui traînent comme ça en électron libre, mais qui ont une très vaste connaissance biblique. Ils savent, ils ne s'engagent pas dans l'obéissance. Et donc Josias ne s'est pas contenté de faire lire la Bible en disant, voilà, vous avez apprécié la lecture, c'était bien, c'était intéressant, hein? Voilà, viens demain. Non, il a dit, maintenant, vous avez entendu, on va s'engager devant l'Éternel à lui obéir. Et le peuple a dit, oui, on va s'engager. C'est merveilleux. Le roi et son peuple autour du trône de Dieu à s'engager à lui être fidèle. C'est ce que Dieu voulait. Alors bien sûr, cette alliance a duré le temps qu'elle a duré. Ce peuple est retourné vers le péché. Mais écoutez, chaque jour qu'ils ont vécu près de Dieu, c'était un jour béni pour eux et pour Dieu. Satan vous dira, ouais, mais trois mois avec le Seigneur et puis en loin du Seigneur. Alors c'est même pas la peine de revenir au Seigneur, tu sais, hein, c'est pour faire trois mois, c'est pas la peine. Hein. T'as qu'à rester loin de Dieu. Non, mais qui sait la prochaine fois qu'on s'approche de Dieu? Peut-être qu'on va rester près de lui. Peut-être qu'on va casser ce cercle vicieux. Tous les deux jours avec Jésus, vous savez, un jour avec, un jour sans, un jour avec, un jour sans. Peut-être de ces jours difficiles qui vont avoir lieu, on ne va pas s'éloigner de Dieu. On a mieux fait de s'engager 100 fois et par malheur, être infidèle à son engagement, plutôt que de dire, oh, je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas. Et ça dans tout. Les églises sont pleines de gens qui disent je ne m'engage pas parce que je ne sais pas si je ne vais pas être muté dans les 5 ans. Alors je ne deviens pas membre parce que peut-être ma femme va être mutée dans une région à côté. Alors vous savez, je ne veux pas vous laisser un peu dans la panade si jamais je devais partir. Donc je ne m'engage pas. Je ne deviens pas membre parce que membre, vous savez, ça c'est un peu artificiel. C'est les gens soi-disant qui s'engagent mais qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres. Moi, je fais partie de l'église du Seigneur. C'est Jésus qui est mon pasteur personnel. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, ils ont le raisonnement. Mais ils ne s'engagent pas. Et le Seigneur ne peut rien faire à travers eux. Là, Josias est pratique. On s'engage. On fait l'alliance avec Dieu. Oui, dit le peuple. Et ils ont prié. Et il continue à chasser les abominations et tout ça. Et pendant toute sa vie, verset 33, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, Dieu de leur Père. Leur réveil spirituel a duré tout le temps dans la vie de Josias. Quand il est mort, le peuple était encore fidèle. Ça, c'est rare. Un homme qui a gardé le peuple fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Vers chapitre 35, on va passer vite dessus, mais ils ont fêté la Pâque. Maintenant, on va fêter la Pâque. Mais alors, on va fêter la Pâque comme on ne l'a jamais fêté, depuis le temps de Josué. Josué, ça remonte loin. Josué, ça remonte à 1400 ans avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes à 600 ans avant Jésus-Christ. Ça fait 800 ans qu'on n'avait jamais fêté la Pâque. Comment on va fêter maintenant? Il y a d'autres rois qui ont fêté la Pâque. Depuis le mois de Salomon, on n'avait jamais fêté la Pâque comme ça. Depuis un tel autre, on n'avait jamais fêté la Pâque comme ça. Mais là, c'est depuis le temps de Josué, quand la Pâque a été donnée à Moïse. Alors, c'était d'une profondeur, d'une richesse, d'une spiritualité, d'une unité, d'une intensité que ce peuple d'Israël a fêté la Pâque de l'Éternel. Conduit par un roi qui avait cherché l'Éternel. Et il raconte comment tout ça s'est passé. Les choristes étaient dans leur place, les portiers étaient là, les lévites aidaient les sacrificateurs, il y avait des sacrifices en grand nombre, toutes les troupes étaient présentes, chacun à son poste, c'était sérieux, on sert l'Éternel, c'était très organisé. Toutes les familles consacrées à l'Éternel étaient chacun à sa place. C'est très beau. L'organisation ne fait pas la spiritualité. Mais la spiritualité, si on veut faire un travail pour Dieu, ça aboutira à une saine organisation. où chacun joue son rôle. Comme les membres du corps, chacun joue son rôle. Et là, ils ont fait ça. Alors, vous dites, bon. Et alors après? Après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est mort. Il est mort comment? Dans une guerre. Il est allé faire la guerre, cet homme qui aimait l'Éternel. Il est allé faire la guerre, oui. Parce que il avait fait alliance avec un peuple, une alliance royale avec un peuple, avec une nation. Et il devait s'opposer, faire tampon avec, entre l'Égypte et son nouvel allié. Fidèle à sa promesse, quand Pharaon Necho est monté vers l'Égypte, de l'Égypte, pour monter vers Ninive, Josias dit, je ne peux pas te permettre de passer sur mon territoire. J'ai fait alliance avec tel roi, je dois être fidèle à mon alliance. Pharaon lui dit, écoute, moi j'ai rien contre toi, Josias. Laisse-moi passer, j'ai des choses à faire. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mais Josias dit, non, il faut que je sois fidèle. Je vais t'affronter, il faut que j'aille. Et dans cette bataille, il est mort. Alors on serait tenté de dire, oh, mais misère, pourquoi il n'a pas écouté la voix de l'Éternel? Il n'a pas. Moi, je crois qu'il a écouté l'Éternel. Moi, je crois qu'il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Je ne comprendrais pas qu'il ait fait tout ce que Dieu voulait jusque-là et tout à coup, il s'éloigne de Dieu et fait n'importe quoi. Vous savez quoi? Dieu lui avait dit, le jugement va tomber, mais pas pendant ta vie. Et je pense que le Seigneur l'a envoyé, non pas pour lui faire du mal, simplement pour qu'il termine sa vie d'une manière héroïque, sur un champ de bataille, à 39 ans. Et là, on l'a pleuré, on l'a lamenté. Le peuple était très attaché à ce roi. Il l'aimait vraiment. Il les avait conduits vers l'Éternel. Et ils ont dit, on n'a jamais eu un roi comme ça. On n'aura plus jamais un roi comme ça, comme le bon roi Josias. On l'a enterré avec les honneurs, comme le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur a enlevé son homme avant d'envoyer le jugement. Le jugement était obligatoire. C'était prédit. Mais le Seigneur a pris son serviteur et l'a sorti pour que lui ne reçoive pas ce jugement sur lui-même. Le peuple est retourné vers ses péchés et le jugement est tombé. Mais là aussi, un homme qui cherchait Dieu, même Dieu a orchestré les détails de sa mort. Vous savez quoi? Nous serons vivants aussi longtemps que nous sommes utiles au programme de Dieu. Et quand Dieu décide qu'il a fini avec nous, où est le mal à ceux qui nous fassent mourir? Il dit, je fais naître et je fais mourir. Moi, j'aimerais plutôt mourir parce que Dieu dit, il est temps pour toi, j'ai fini, tu as fait ce que tu avais à faire, je t'ai créé pour ça, tu as fait ça, tu as fini ta course, maintenant tu vas mourir. Il faut de toute façon mourir. Mais combien c'est beau quand celui que nous servons, celui à qui nous obéissons, décide que c'est le moment. Et nous partons sereinement, plutôt que dans la désobéissance ou sous un nuage. Et le peuple, il a laissé un exemple absolument lumineux pour toute l'humanité depuis 3000 ans. On peut lire 2500 ans l'histoire de Josias et l'exemple de cet homme. C'est un véritable héros spirituel. Mais souvenons-nous des tableaux successifs de sa vie. La recherche de l'Éternel, la destruction de toute idole, la rénovation du temple, la lecture, la compréhension de la loi, l'engagement de lui-même et de son peuple à obéir au Dieu qui s'est révélé dans la Bible, la fête de Pâques qui a marqué tout le peuple. Et puis, après avoir fait tout ce que Dieu attendait de lui, le Seigneur l'a enlevé à sa récompense. Qui pourrait souhaiter une meilleure vie que ça? Notre Dieu et Père, merci pour l'exemple de cet homme. Et nous te prions que tu nous rendes sensibles à cette biographie. Permets-nous de nous examiner. Est-ce que nous sommes dans telle ou telle étape par laquelle est passé Josué? Est-ce que nous en sommes encore à regarder un peu trop tendrement nos idoles plutôt que de les réduire en poussière? Sommes-nous devant ta parole? Est-ce que nous acceptons ce qu'elle nous dit? Est-ce que nous faisons la fête dans nos cœurs de te connaître comme ils l'ont fait? Seigneur, parle par ton Esprit Saint. Et Seigneur, là où il y a besoin, aide-nous à ne pas repousser l'engagement. Aide-nous à ne pas trouver de fausses excuses. Mais que nous puissions dire, Seigneur, je suis infidèle de nature, mais tu es fidèle. Et grâce à ta fidélité, je peux m'engager dans le service, dans l'aide, dans l'obéissance. Je peux m'engager avec toi en vue de victoire sur les mauvaises habitudes. Je peux faire alliance avec toi parce que je compte sur toi et non pas sur moi-même. Et que chacun puisse faire un grand pas en avant dans sa vie spirituelle pour la gloire de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre réunion tire à sa fin. Il est 9h30. Alors n'oublions pas donc la consigne par rapport à notre voisinage. Et si vous voulez faire du bruit et avoir des conversations, on peut se retrouver dans le réfectoire principal.